שיר זמי השם עליכם תחיו, לאורך חיים טובים ושנים נעימים. Commentaire, explication de l'Aramida suite. Nous sommes aux bénédictions intermédiaires, qui sont appelées les tzrachim de l'homme. Donc nous avons dit, Chachamim nous disent, les trois premières bénédictions sont l'ordonnance, nous énonçons les louanges du Seigneur, avant de lui demander nos besoins. Donc les besoins, les brachot, qui sont nos besoins, sont au nombre de 13. Rav Haïm de Volodjin dit, bien qu'il apparaisse du texte de la prière qu'elle ne concerne que nos besoins matériels, il est évident pour tout homme intelligent que le sens en est ailleurs. Les prières remplacent les sacrifices quotidiens qui étaient des holocaustes entièrement brûlés sur l'autel. Un hola, personne n'en mange et n'en jouit. Il était entièrement brûlé sur le misbéach. Il partait en fumée pour Akadosh Baruch Hu. Les hommes n'en avaient aucune part. De même, il faut méditer le texte de la prière de Rosh Hashanah, qui est entièrement consacré à la gloire du règne d'Hachem. Alors qu'on aurait pu penser qu'en ce jour, et c'est le moment propice pour que chacun demande le meilleur pour lui, pour l'année qui s'annonce. Nous avons déjà dit que la midda de Malchut, la royauté, c'est une midda, c'est la caractéristique. Nous disons que Dieu, il est le roi du monde. Ce concept de royauté, qu'est-ce qu'il signifie? La royauté consiste, le roi a le devoir de satisfaire à tous les besoins de ses sujets. Ces besoins, les différents besoins que nous avons en tant qu'être humain, c'est le Dieu qui est roi du monde, qui doit nous les octroyer. Ces besoins sont l'expression des éléments qui constituent la royauté. En priant Hachem, notre but est de renforcer et d'amplifier la puissance de chacun des éléments, de ces éléments qui constituent la royauté. Pour faire une parabole, la royauté, c'est un gouvernement constitué de plusieurs ministères et d'un chef de gouvernement. Notre prière consiste à renforcer l'influence de chaque ministère afin que son budget, entre guillemets, se développe et soit plus grand pour que ça se déverse sur terre. Et qu'il y ait une harmonie entre ces ministères. Et le chef du gouvernement, c'est la bracha de Shomea Tefila. Alors ici, il y a lieu de faire une mise au point. Un enseignement fondamental que nous devons avoir à l'esprit quand nous prions. Nos maîtres disent que les mécréants, les Rechaïm, se tiennent sur leur Dieu. Il y a marqué, Rechaïm, Omdim al Elohim. Par exemple, Pharaon se tenait sur le Nil. Alors, mais comment? Le Nil, c'est son Dieu. Alors, le Dieu, il est au-dessus de l'homme. Cela signifie que pour Pharaon, comme pour toutes les autres idolâtres, les dieux sont à son service, qu'ils sont là pour satisfaire ses besoins. Pourquoi Pharaon fait-il le service de son idole? Parce que l'idole doit le satisfaire. Pharaon a des besoins. La nation égyptienne a des besoins. Donc il va à l'idole et dit, « Hey, Dieu, je te sers, mais il faut que tu payes, que tu me donnes. » Pour beaucoup de gens, malheureusement, la Torah et les mitzvot sont les moyens d'obtenir de Dieu ce qu'elle désire. Alors on essaie d'obtenir la santé, la subsistance, les enfants, etc. Tous ces gens-là pensent, ils te disent, si tu pries bien, comme il faut, avec concentration, Hachem te donnera tes demandes, exaucera tes demandes. Dans cette optique, Hachem n'est là que pour moi. Malheureusement, ce genre de conception est totalement erronée. Ces prières sont polluées par des pensées qui les parasitent. C'est ce que les maîtres appellent les écorces. En vérité, le Yetzer Hara, il te fait croire que Dieu, il est à ton service. Cette idée-là d'obtenir en accomplissant la Torah la mitzvot, alors pollue la mitzvah et la souille. Et c'est une erreur fondamentale. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes à l'image de Pharaon, nous ressemblons à Pharaon, qui est sur son île et qui tape le nid et dit « Idole, donne-moi, donne-moi ». Comment faut-il prier? La réponse est que la prière n'est pas un moyen de parvenir à ses fins, mais qu'elle est un but en soi. Prier, c'est se lier et s'attacher à Hachem, c'est-à-dire unir les éléments pour les monter au sommet des mondes, pour que sa volonté se réalise. Il y a une image, qui a une histoire qu'on raconte sur Rabbi Zusha de Hanipoli, qui va traduire exactement qu'est-ce que la prière. Rabbi Zusha de Hanipoli était un grand sadique. Il n'avait pas de chassidim. C'était un vagabond qui allait de ville en ville pour soutenir, faire des brachot, enseigner la Torah. Et un jour, il était dans une ville. Il était au Beit HaMidrash en train d'étudier. Et une femme malheureuse arrive. Elle lui dit, Rabbi, je suis marié depuis 20 ans, je n'ai pas d'enfant, je souffre. Elle lui dévoile son cœur et ses souffrances et ses douleurs et sa peine. Et le rabbi, dans sa grande miséricorde, voit la souffrance de cette femme et s'adresse à Dieu et dit, Dieu, maître du monde, comment tu laisses une femme comme ça souffrir? Qu'est-ce que pour toi lui donner un enfant? Et il prie, il se met à prier avec une ferveur extraordinaire pour que cette femme ait un enfant. Et subitement, une vision lui apparaît. Un ange arrive et lui dit, Zusha, que fais-tu? Tu es en train de chambouler les ordonnances et le système du haut. C'est catastrophique ce que tu fais en haut. Sache que si cette femme a un enfant, tu n'auras pas de Olam Haba. C'est au prix de tout ton Olam Haba que cette femme-là aura un enfant. Et tout d'un coup, en entendant cela, Rabbi Zusha saute sur sa chaise et danse. Il est heureux. Et il continue à prier. Et il continue à prier avec encore plus de ferveur. Il est heureux de cela. Et subitement revient l'apparition. Et on lui dit, ah, puisque c'est ainsi, eh ben, sache que non seulement la femme aura son enfant, mais toi aussi tu auras Olam Haba. Et alors, Rabbi Zusha continue à danser, à chanter et à prier, il est heureux. Les élèves, en voyant ça, lui demandent, on ne comprend pas, Rabbi. Une fois, tu es content quand on te dit, tu n'auras pas Olam Haba. Et une fois, on te dit, tu es content quand on te dit, tu auras Olam Haba. Alors, il leur dit, moi, je suis très heureux de ne pas avoir Olam Haba. Comme ça, je fais la Torah et les mitzvot de manière désintéressée, totalement désintéressée, pour l'amour de Dieu et le satisfaire. Mais quand Akadosh Baruch Hu m'informe que j'aurai Olam Haba, je suis content. Pourquoi? Pas parce que moi je veux avoir Olam Haba, parce que lui veut me le donner. Parce que sa volonté, il a écrit dans sa Torah, si tu fais la Torah et les mitzvot ici, tu auras Olam Haba là-bas. C'est sa volonté, parce que lui veut donner. Pas parce que moi je veux recevoir de récompense. Je ne veux pas la récompense, mais je suis prêt à la recevoir parce que lui veut me la donner. C'est le sens de la prière. Je ne prie pas pour moi pour obtenir. Je prie pour donner la possibilité à Dieu de me donner, parce que sa volonté est de me donner. Mais je n'attends rien en retour. Je ne reçois que parce que lui... C'est le satisfaire que de recevoir ce qu'il me donne. Je suis honoré de recevoir ce que le roi veut me donner. Et c'est ça, dans cette idée-là, dans cette démarche-là, que nous devons faire la prière. C'est le sens profond de la prière. La quatrième bénédiction, la connaissance. La première chose qu'un homme a besoin, c'est le savoir et l'intelligence. Et la conscience de soi. Atahonen le Adam Da'at. Tu gratifies l'homme d'intelligence. Da'at signifie la conscience de soi. Tu enseignes le discernement à l'être humain. Baruch Ata Hashem. Toi, quand je dis Baruch, c'est toi, Akadosh Baruch Hu, tu es la source de bénédiction. Et quand je dis Baruch, j'ouvre les vannes du réservoir de la bénédiction afin que ça se déverse sur terre. Baruch Ata Hashem, Honen Adad, qui gratifie l'homme de l'intelligence. L'homme, Adam, ce mot-là signifie ressembler. Adam, le mot Adam ne vient pas de Adama. C'est Adama qui vient de Adam. Adam signifie ressembler. L'homme ressemble à son créateur. Comment ressemble-t-il à son créateur? Non seulement par la structure physique de son corps et de son âme, mais aussi par la qualité de ses actions, par son intelligence. Il ressemble à Dieu par son intelligence. Qu'est-ce que la définition de Dieu dans ce monde? C'est l'intelligence de la création, le savoir. Donc, Akash Bokhu gratifie l'homme naturellement, de l'intelligence. Et c'est pour ça qu'on commence avec l'intelligence et le savoir, parce que c'est ça qui qualifie l'homme en tant qu'homme qui ressemble à son créateur. Atahonen, tu gratifies, cela signifie gratuitement, c'est-à-dire que même si l'homme ne le mérite pas, Akash Bokhu le lui donne. À la différence des autres bénédictions qui commencent par une requête, les autres bénédictions, par exemple, on dit « Achivez-nous, Refa'enu », c'est « On demande, guéris-nous, fais-nous faire tchouva, pardonne-nous ». Ici, on dit « Tchigrata honen le adam da'ad ». Ici, nous exprimons une reconnaissance. Nous reconnaissons à Dieu qui nous donne, de manière naturelle, cette conscience du da'ad. C'est une grande louange, comme il est dit. Yahiv Hochmat al Hakimin. Akash Bokhu, il donne le savoir et l'intelligence aux ceux qui sont déjà savants et intelligents. L'intelligence est innée chez l'homme. Il possède ses qualités dès sa naissance. Il a le devoir de la développer pour la mettre au service du bien. Le Adam Da'at, tu donnes à l'homme l'intelligence. Le mot Adam sous-entend d'une part une créature qui ressemble à son créateur et d'autre part une créature vile liée à la terre. De même, le mot Da'at signifie d'une part l'esprit divin et d'autre part ce qui est donné en cadeau dès la naissance. Ce que l'homme maîtrise de manière évidente et claire, sans avoir aucun doute, est appelé Da'at. Bien que créé de la terre, l'homme possède cette intelligence, qualité, dont Hachem le gratifie dès sa naissance. Il doit la transformer en esprit divin. C'est ça toute la chokhma du développement humain. C'est-à-dire les éléments, quand il apprend à avoir conscience de ce qu'il est, il arrive à sanctifier et à élever les éléments de son intelligence naturelle au niveau de la spiritualité la plus haute pour atteindre l'esprit divin. Umlamed l'Enosh Bina. Tu enseignes le discernement à l'être humain. Enosh est une créature faible qui doit faire de gros efforts pour acquérir le discernement. Donc il y a trois mots pour dire Adam, Adam, Ish ou Enosh. Enosh, c'est la partie la plus basse, c'est l'homme le plus bas. Et cet homme-là, le plus bas, qui est au plus bas niveau, doit faire énormément d'efforts pour acquérir l'intelligence, le discernement, etc. C'est la qualité de déduction, le discernement. Bina, c'est savoir déduire une chose d'une autre chose. Le fait de comprendre une chose d'une autre. C'est ce que exprime, c'est ce qui permet à l'homme d'atteindre le da'at. C'est-à-dire déduire, etc., pour arriver à mettre en application. Nous gratifie de ta part du savoir, du discernement et de l'intelligence. Chokhma, bina, vada'at. Le savoir, c'est ce que nous apprenons des autres, la leçon du maître. Il est symbolisé, ce savoir-là, cette chokhma, par l'hémisphère droit du cerveau, qui emmagasine les informations. Le discernement, la bina, c'est ce que l'élève développe et ajoute à l'enseignement de ses maîtres. Le maître, quand il enseigne, ne dit pas tout. Il laisse une partie de découverte à l'élève. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, si le maître dit tout et l'élève, il n'a plus rien à faire, alors l'élève n'existe pas. L'élève doit arriver à déduire des paroles du maître ce que le maître n'a pas dit. Nous savons tous que le non-dit a beaucoup plus de puissance que le dit. De la partie non écrite de la Torah et beaucoup des parties du noir. Le Sefer Torah est écrit noir sur blanc. Mais la partie écrite noire est limitée. Alors que le blanc, nous apprenons des parties blanches de ce qui n'est pas écrit, beaucoup plus que de ce qui a été écrit. C'est la Bina. Il est situé dans l'hémisphère gauche du cerveau. L'intelligence, c'est l'équilibre entre les deux. c'est-à-dire mettre le savoir en application dans la vie de tous les jours. Comment arriver à ce qu'un concept, une intelligence théorique arrive à être mis en application? C'est le dat, c'est au niveau du cervelet. Le cervelet donne des impulsions de vie à travers la moelle épinière pour que le corps puisse agir. Donc nous avons ici, au début, Chochma Bina, qui sont au niveau de l'intellect, qui sont au niveau de la théorie, qui vont être transformés par le cervelet, et qui le cervelet va transmettre les impulsions de vie à travers la moelle épinière au corps pour qu'il puisse agir. Donc c'est dans l'action, cette action-là va traduire la connaissance et l'intelligence et le savoir. Avant de prononcer la bénédiction, il faut avoir une pensée. On doit se dire, maître du monde, gratifie-moi de l'intelligence afin que je m'éloigne du mal et que je fasse le bien comme ta volonté le désire. Donne-moi de grâce la compréhension du sens de tes mitzvot. Si j'arrive à comprendre le sens profond des mitzvot, alors j'arriverai à atteindre Be'ezrat Hashem, le Da'at qui est la partie, le Ruach HaKodesh, l'Esprit divin. Baruch Adonai Le'olam, amen v'amen.